Vos questions, nos réponses.
Bonjour à tous, bienvenue sur Alzheimer la radio. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. Retour de ces émissions spéciales depuis maintenant plus de deux semaines avec l'épidémie de Covid-19 qui est toujours d'actualité, hélas. Le retour aussi du confinement, ce contexte, vous l'avez déjà connu en début d'année avec de nombreuses conséquences. Alors cette fois-ci, c'est un petit peu différent. Il y a des difficultés toujours, des situations uniques et puis toujours des personnes fragiles à accompagner, à entourer. On va faire le point dans quelques minutes sur ces situations. Et quoi qu'il arrive, nous restons mobilisés. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions à l'antenne ou à réagir via la page Facebook de l'association, la partie commentaires de la radio, ou même notre répondeur. Et pour répondre à vos questions ou vous apporter un conseil, nous sommes toujours accompagnés de la psychologue de l'association France Alzheimer, Judith Mollard-Palacios. Bonjour Judith.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Valérie.
Alors Judith, on a reçu encore une fois pas mal de questions et de témoignages. Je signe que les auditeurs sont à l'écoute en cette période qui reste du coup compliquée, d'autant plus avec les fêtes de Noël qui approchent. C'est d'ailleurs le sens d'un message répondeur que l'on a reçu et qu'on écoute tout de suite. On se retrouve juste après.
Bonjour, mon père est hospitalisé à un EHPAD, à un stade de la maladie où il nous reconnaît encore. Et en raison des conditions sanitaires actuelles, ma mère et moi envisageons de le faire sortir une semaine pour Noël, quitte à refaire un test PCR pour son retour à l'EHPAD. Le médecin et l'équipe professionnelle nous mettent en garde et ils craignent que ce retour soit difficile pour mon père et peut-être délétère. Alors nous nous demandons que faire. Est-ce qu'il faut suivre notre intuition et notre sentiment, que ce sera bon pour lui de passer les fêtes en famille, ou bien faut-il être raisonnable et le laisser enfermé par crainte d'un retour éventuellement difficile?
Alors Judith, que répondre à cette famille?
Tout d'abord de dire que nous sommes dans une période où nous allons bientôt arriver aux fêtes de fin d'année, des fêtes de fin d'année qui sont par excellence des moments familiaux importants, des retrouvailles dans certaines familles, et participent à ces rites symboliques mais très importants et qui tissent les liens entre les membres d'une même famille. Donc on peut tout à fait évidemment comprendre et entendre que cette épouse et cette fille aient très envie d'avoir mari et père à leur côté pour pouvoir partager avec lui peut-être l'avant-dernier ou même le dernier Noël en sa présence. Alors, l'équipe soignante et l'équipe médicale semblent les avertir d'une possible difficulté au retour dans l'établissement, mais d'abord, sur quoi s'appuie-t-il quels sont les éléments qui peuvent leur faire penser cela? Et puis, et même si c'était en effet peut-être un peu difficile que ce retour en EHPAD pose problème à ce monsieur pour se réadapter peut-être à ce nouvel environnement, n'empêche que le bénéfice qu'il aura à partager ce temps familial, de toute façon, aura le mérite d'avoir été vécu, aura le mérite de lui avoir apporté cette présence affective essentielle que tout bon professionnel qu'il soit ne pourra pas apporter à un résident en EHPAD. Donc moi, je serais plutôt d'avis à encourager cette famille à se fier à son intuition, à se fier à son désir et à peut-être alors prendre le risque que les quelques jours qui suivront le retour de ce monsieur en EHPAD soient un peu plus difficiles. Sauf que, en tout cas, moi, l'expérience m'a montré que finalement, les craintes des professionnels n'étaient pas toujours justifiées. Donc, je crois que dans ces périodes où déjà nous sommes contraints, restreints dans nos échanges affectifs, dans nos échanges sociaux, je ne suis pas sûre qu'il faille en rajouter Et je crois que c'est important de suivre son intuition et de prendre le risque, mais finalement de quel risque s'agit-il, mais de pouvoir vraiment offrir à cette famille ce temps précieux qui comptera certainement dans la vie de chacun d'eux.
Alors on sent que cette période sera forcément compliquée avec des questions de ce genre. On vous invite bien sûr à ne pas hésiter à nous les poser. Il y a une nouvelle question, Judith, celle de Sophie. Comment faire pour motiver maman qui est en résidence autonome à manger, sachant qu'on a l'autorisation de l'accompagner pour le repas ?
C'est une vaste question. Visiblement, cette maman n'a plus de goût à manger, ou peut-être aussi est-elle en difficulté d'un point de vue cognitif pour, par exemple, utiliser les couverts, savoir quel instrument prendre, soit pour piquer, soit pour trancher, soit pour prendre à la cuillère. Bon, ça peut être une des raisons, mais j'imagine que ça a déjà été évoqué. Enfin, de simplifier en tout cas la séquence du repas en ne mettant à disposition de la personne que l'instrument le plus nécessaire et le plus facile d'utilisation. Ensuite, parfois la personne ne sait plus tout à fait identifier ce qu'elle a dans son assiette. Et donc, ne pas prendre le risque de porter à la bouche finalement des aliments qu'elle ne reconnaît plus. Si la personne a des problèmes dentaires et qu'on lui mixe son repas, ce qui est parfois le cas malheureusement quand on est âgé, on peut bien comprendre que ce qui est dans l'assiette n'a rien d'appétissant et ne suscite pas le désir, l'envie de manger. Après, on sait aussi que les personnes âgées, voire très âgées, vont être réticentes devant une trop grande quantité de nourriture. Donc il faut privilégier les petites portions, quitte à répéter et à faire plusieurs prises dans la journée, ou en tout cas plus que trois prises, mais vraiment de mettre des quantités raisonnables dans l'assiette de la personne. Parce que souvent, on est tenté, de quand elle mange moins bien, de vouloir à chaque fois lui en donner un peu plus, mais ça risque d'avoir l'effet contraire. On sait aussi qu'avec le vieillissement, mais aussi avec les troubles cognitifs, la personne perd le goût des aliments. C'est-à-dire qu'elle n'analyse plus le goût, le salé, l'acide, l'amer, le sucré. Et si on n'a plus de goût, on l'a déjà éprouvé quand on est très très enrhumé, le goût qui est aussi très lié à l'odorat, eh bien on perd l'envie et l'appétit de ces aliments. Alors, on sait que donc la présentation des aliments va être d'autant plus importante, que l'assiette soit agréable à regarder. Et aussi, on sait que le goût sucré peut malgré tout être le goût qui va rester le plus prédominant et le plus source de satisfaction. Donc là aussi, essayez de voir, est-ce que cette dame a plutôt tendance à manger des choses sucrées au détriment des choses salées. Et si c'est le cas, eh bien, il faut parfois ne pas hésiter à sucrer, par exemple, une portion de riz ou à mettre du miel. En tout cas, aller là où la personne semble avoir encore le goût de ce qu'elle mange. Parce que ce spectre du goût des aliments va de toute façon diminuer. On peut voir aussi des personnes qui ne vont plus avoir de goût que pour 3-4 aliments. Et souvent des aliments qui ont été très présents, notamment dans l'enfance, le jambon pomme de terre, les pâtes carbonara. Vraiment, il va y avoir une restriction de l'appétit sur certains aliments seulement. Et là aussi, il ne faut pas hésiter, même si on sait qu'il faut manger varié et avec 5 fruits et légumes par jour. Bon, là, on adapte, et ce qui compte, c'est que la personne ait encore du plaisir. C'est vrai que la prise de repas, si elle n'est pas associée à du plaisir, à de la satisfaction, qui passe aussi d'ailleurs par le relationnel, et donc le fait que cette structure ait accepté la présence de la famille est plutôt de bon augure, que ce soit aussi un moment où il y a un échange affectif. Voilà, je crois que c'est vraiment par l'observation aussi et de voir vers où la personne va et ce qui lui reste encore source de satisfaction.
On va passer à un témoignage plus difficile, malheureusement, celui de Marie-Jo. qui nous parle de sa mère qui est partie seule, sans ses enfants, et que c'est très dur de l'accepter. Nous ne ferons jamais son deuil, elle nous manque énormément. C'est cette question donc du deuil, Judith, qui est encore plus difficile en cette période.
Alors en effet, hein, on a énormément, et bien malheureusement, de témoignages comme celui-ci. Je citerai Marie de Henzel, hein, psychologue clinicienne et voilà, à l'initiative, hein, de tout ce que sont les soins palliatifs, hein, qui considère, hein, que cette impossibilité d'accompagner son proche jusqu'à la mort, hein, et de pouvoir ensuite mettre en place les rites qui accompagnent, hein, le décès d'un proche, Marie de Henzel considère que c'est un des véritables scandales, hein, du confinement, du premier confinement, du second, parce que ces rites immémoriaux, hein, qui sont en place depuis que l'homme est sur Terre, ont une véritable raison d'être, hein, et véritablement accompagnent, et d'un côté le mourant, celui qui sait, même s'il est malade, hein, d'une maladie neuro-évolutive comme la maladie d'Alzheimer, même du côté du mourant, donc qui sait qu'il va quitter à un moment donné, hein, ses proches, et du côté des proches bien sûr, de pouvoir dire au revoir, de pouvoir dire quelque chose de cette séparation ultime. Et c'est vrai que ce qui n'est pas possible actuellement, en tout cas dans beaucoup d'établissements, pas tous, hein, mais dans beaucoup d'établissements, eh bien ampute et le mourant, mais aussi bien évidemment ses proches, de ce passage, de ces rites qui permettent de rendre les choses, alors peut-être pas acceptables, mais en tout cas de pouvoir, hein, les traverser ensemble. Ce que Marie de Henzel, hein, préconise, c'est malgré tout, à la suite du décès du proche, peut-être essayer d'inventer des rites, hein, de pouvoir se rassembler en famille, évoquer le proche décédé, allumer des bougies, lui écrire peut-être des lettres, lui écrire ce que l'on aurait souhaité, hein, on aurait souhaité être là, pouvoir lui tenir la main, pouvoir lui caresser la main, enfin écrire tout ce qui n'a pas pu avoir lieu. Alors c'est pas évidemment la même chose, bien entendu, hein, mais de pouvoir en tout cas inventer quelque chose de rite, hein, pour traverser et pouvoir faire ce qu'on appelle son travail de deuil avec toutes les émotions qui y sont attachées, la colère, et Dieu sait si ces familles en ont actuellement, la tristesse, le chagrin, et puis à un moment donné pouvoir accéder à une période d'acceptation, hein, de ce qui s'est passé. Mais je pense qu'elle a tout à fait raison d'insister sur ces rites après coup, en famille, ensemble, ces lettres écrites, peut-être les déposer près de la tombe, s'il y a une tombe, ou les faire brûler avec une bougie pour faire partir quelque chose de ça, hein, vers l'au-delà, enfin, inventer quelque chose de nouveau rite.
Et c'est important de recevoir ce genre de conseils dans cette période, donc merci beaucoup Judith. On va passer à Christiane, qui elle est épuisée en ce moment, nous dit-elle. « Mon mari me demande d'appeler sa maman décédée depuis longtemps, et tant que je ne le ferai pas, il ne me lâchera pas de la soirée. » Alors, comment peut-elle faire ?
Alors, oui, ce sont des situations qui ne sont pas extraordinaires, hein. C'est vrai que la personne malade, dans l'évolution de sa maladie, va de plus en plus avoir besoin de réassurance, en fait, hein, de se sentir à proximité, hein, d'une personne qui rassure, qui console, qui soutient. Et en effet, dans nos vies, à nous tous, hein, la première personne qui a tenu cette fonction-là, cette place-là, c'est la mère, hein, c'est la mère qui, dès notre arrivée au monde, nous a apporté les soins dont nous avions besoin, nous a nourris, nous a apporté l'affection qui nous était nécessaire. C'est la personne auprès de qui, hein, pendant un certain nombre d'années, on se retourne quand on est triste, quand on a du chagrin, quand on a peur. Et très souvent, donc, dans l'évolution d'une maladie d'Alzheimer, avec la perte, hein, des repère avec cette amnésie rétrograde hein, qui nous ramène à nos souvenirs premiers, eh bien, les personnes malades font appel à cette figure maternelle initiale, archaïque. Hein, et certainement que ce monsieur, c'est de ça dont il parle, hein, c'est de ça dont il s'agit. Et peut-être que de lui répondre à sa demande d'appeler sa mère, hein, parce que c'est vrai que spontanément, on a envie de lui répondre que malheureusement, ce n'est pas possible puisqu'elle est décédée depuis longtemps, mais de lui dire à quel point on a compris qu'il avait besoin d'être réassuré, qu'il avait besoin d'être consolé, qu'il avait besoin d'être soutenu et de le prendre dans ses bras, de lui caresser la main, de dire qu'on a compris une partie de la demande, hein, qu'on ne peut pas y répondre au premier degré, mais que son épouse hein, peut lui apporter cette réassurance et que toute sa famille est là pour le soutenir. Voilà comment je répondrai hein, à cette épouse qui est en difficulté dans cette situation.
Alors, on sait que le contexte de la crise sanitaire a engendré bien des problématiques dans les visites en EHPAD. Parfois, c'est encore interdit. Parfois, c'est possible, mais très restrictif. Bref, des situations compliquées pour les familles, pour les directeurs d'établissement, pour les malades qui sont en EHPAD, des conflits. Voilà pourquoi on va parler, Judith, pour terminer cette émission, de ce qui s'appelle la médiation. C'est être aidé par des tiers, justement, pour rendre tout ceci plus facile. Est-ce que c'est ça ?
Alors tout à fait, hein, c'est une initiative exceptionnelle et tellement utile. Donc en fait, cette initiative est partie d'une rencontre entre le professeur Roger Gilles, hein, qui est responsable de l'espace éthique de la région Nouvelle-Aquitaine. La rencontre donc entre le professeur Roger Gilles, entre le docteur Geneviève Demour, gériatre et présidente hein, de l'association française Alzheimer-Dordogne, et le directeur hein, de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Donc ces trois personnes se sont mises d'accord hein, devant les difficultés récurrentes et la souffrance tellement intense hein, des familles de ne plus pouvoir maintenir du lien, continuer à être en relation avec leurs proches. Elles ont décidé donc de créer une cellule d'écoute et de dialogue. Hein, c'est-à-dire que en Nouvelle-Aquitaine, les familles, mais aussi les directeurs d'établissements ou les professionnels de ces établissements peuvent faire appel à cette cellule pour rendre compte de leurs difficultés et des conflits parfois hein, qui peuvent s'installer au sein des EHPAD entre les familles et les professionnels des EHPAD pour qu'il y ait un espace de médiation, pour que chacun puisse faire peut-être un pas de côté et puisse entendre la demande de l'autre hein, ou les contraintes des autres et peut-être pour assouplir chez les directeurs d'EHPAD quelquefois une attitude un peu hyper sécuritaire. Hein. Alors, ça n'est pas pour leur jeter la pierre, mais les directeurs d'EHPAD sont soumis à des contraintes, hein, à des directives émises par les ARS et appliquent à la lettre hein, ces directives et parfois sans forcément tenir compte des singularités, des cas particuliers des uns et des autres. Et c'est la raison pour laquelle cette cellule est très intéressante parce qu'elle implique aussi l'ARS, hein, qui est celle qui donne les consignes aux directions et peut, du coup, là aussi intervenir et assouplir, déroger à certaines d'entre elles dans des situations qui sont apportées à cette cellule d'écoute et de dialogue éthique. Et c'est vraiment une initiative, je trouve, tout à fait formidable et qui apporte des effets très satisfaisants où chacun va réussir à faire une avancée et à trouver hein, quelque chose qui convienne à chacun. Cette cellule d'écoute, d'ailleurs, semblerait pouvoir aussi se mettre en place au sein de l'ARS et de la région Île-de-France. Et donc, c'est une bonne nouvelle et c'est à suivre. Et nous vous tiendrons, bien entendu, informés de ces mises en place.
Et on fera, bien entendu, très prochainement sur cette antenne une émission à ce sujet pour en savoir plus. Judith, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés, bien sûr, d'avoir répondu à toutes ces questions et aussi à ces inquiétudes. On vous retrouvera, bien entendu, dans une prochaine émission.
Merci et à bientôt.
Merci aussi à vous tous, chers auditeurs, de vos nombreuses questions, de vos témoignages. On tâchera d'y répondre lors d'une prochaine émission spéciale, bien entendu. Nous restons mobilisés à vos côtés pendant cette période. Vous pouvez réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio www.radiofrancealzheimer.org. À bientôt, prenez soin de vous.
Vos questions, nos réponses.